Bonsoir. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a produit un nouveau rapport sur le pays et l'a transmis la semaine dernière au président du Conseil de sécurité. En résumé, ce rapport soutient que l'AFC M23 ne se limite plus à une rébellion armée et décrit un mouvement qui renforce son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans les territoires qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une République fédérale du Congo. Le document onusien évoque également les liens grandissants entre l'AFC M23 et l'ancien président Joseph Kabila. Le document souligne que les retraits annoncés des forces rwandaises et de l'AFC M23 se sont essentiellement traduits par des repositionnements tactiques de 15 à 20 km et ajoute également que la RDC n'a pas respecté non plus son engagement de neutraliser les FDLR, lesquels ont poursuivi leurs opérations aux côtés des FRDC, l'armée nationale. Ces révélations interviennent dans un contexte où les tensions sécuritaires demeurent élevées dans les provinces du Nord et Sud Kivu, malgré les différentes initiatives diplomatiques régionales visant à parvenir à une cessation durable des hostilités. Quelle analyse faire de ce énième rapport des experts de l'ONU sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo? C'est le débat de ce soir et pour l'aborder, nous serons avec Joseph Nkoy, député national, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Nkoy, bonsoir. Dans ce débat, il y a aussi Ferdinand Kambere, bonsoir. Ferdinand Kambere, est-ce que vous êtes là? Ferdinand Kambere est avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Et pour clore ce casting de ce soir, Henri Pascal Mayala, coordonnateur de la structure baromètre sécuritaire du Kivu. Henri Pacifique Mayala, est-ce que vous êtes là? Nous espérons tous les avoir quand même dans un instant, lorsque nous aurons commencé nos débats, Joseph Nkoy, Ferdinand Kambere et Henri Pacifique Mayala. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a produit un nouveau rapport sur le pays et l'a transmis la semaine dernière au président du Conseil de sécurité. En résumé, ce rapport soutient que l'AFC M23 ne se limite plus à une simple rébellion armée et parle aussi d'un rapprochement entre l'ancien président Joseph Kabila et le groupe armé. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les groupes d'experts de l'ONU estiment que l'AFC M23 compte aujourd'hui environ 30 000 combattants. Selon les rapports, ces effectifs regroupent les noyaux historiques du mouvement, des recrues mobilisés depuis 2021, ainsi que d'anciens militaires des FRDC, policiers et combattants Wazalendo, ralliés après l'occupation de la ville de Goma. Les experts affirment également que la rébellion continue de bénéficier de l'appui de l'armée rwandaise. Ils évaluent entre 14 000 et 18 000 le nombre des soldats rwandais déployés au nord et au sud Kivu à la fin de 2025, sans retrait significatif depuis, mais avec des rotations et des renforts. Les rapports soulignent aussi que l'AFC M23 a mis en place une administration parallèle dans les territoires sous son contrôle. Le mouvement a centralisé la perception des recettes, pris le contrôle de la SNEL et de la régie des eaux, remplacé la SONANS par une société privée d'assurance et organisé les territoires occupés en trois zones de défense. Sur le plan politique, les experts de l'ONU affirment que l'objectif du mouvement reste les renversements du gouvernement congolais ou, à défaut, la création d'une entité autonome baptisée République fédérale du Congo. Les rapports indiquent également que l'AFC M23 chercherait également une reconnaissance officielle à travers les négociations et ambitionnerait de constituer la future armée de cette entité plutôt que d'intégrer ses combattants dans les FRDC. Beni, Martial Papimukeba, Radio Capitale.
Joseph Nkoy, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bonsoir à vous, Joseph Nkoy, député national, cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes aussi rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale et vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Votre réaction au sujet de la production et la publication de ce nouveau rapport du groupe des experts de l'ONU sur la RDC?
Oui, bien, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si la ligne va nous déranger parce que depuis le début, là, je ne vous saisis pas très bien.
Nous croisons les doigts.
Je ne sais pas si vous me saisissez.
Oui, nous pouvons y aller. Nous croisons les doigts pour que ça tienne pendant une heure.
Exactement. Merci pour la question. C'est avec un sentiment de tristesse que j'ai pris connaissance de ce rapport. Ces sentiments de tristesse m'affectent profondément, d'autant plus que je me réalise que notre pays a beaucoup plus d'ennemis que ces enfants qui peuvent l'amener sur le rail de son développement. Ma tristesse est aussi à l'endroit de ou vis-à-vis de mon peuple, de notre peuple, je veux dire. Puisque lorsque vous lisez les contenus de ce rapport, il est clairement mentionné que l'administration, je veux dire la rébellion de l'AFC, renforce son administration, cherche à mettre en place une nouvelle armée. Peut-être de manière claire, il s'agit là de la création d'un nouvel État. C'est justement une rébellion qui est venue ou qui cherche à exécuter les plans de balkanisation contre notre pays.
Allô? Nous vous écoutons tranquillement. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi triste aussi parce que les réalités décrites par ce rapport sont quand même un peu gigantesques par rapport à ce qu'on aurait pu soit souhaiter, soit présenter auparavant, avant ce rapport? On parle quand même des choses qu'on vient de dire. Hein. Vous parlez d'une éventualité...
C'est vrai que je ne vous saisis pas très bien.
Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que notre pays, justement, comme vous le disiez, pas risque, mais est en voie dans les parties conquises et contrôlées par... le M23 et ses alliés risquent de devenir carrément la république d'autres personnes, puisque ce rapport dit qu'un État qui s'appellerait État fédéral du Congo pourrait être une ambition sérieuse envisagée par le M23 et ses alliés. Est-ce que vous entendez? Et certains services publics sont réquisitionnés par le M23.
Oui, comme je vous ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons revenir sur les éléments de preuve qui attestent que l'AFC est constitué des vassaux du Rwanda, puisque vous le savez, et c'est le Rwanda qui fait tout pour déstabiliser notre pays pour mettre en mauvaise posture l'intégrité de notre territoire.
Mais est-ce que
ces rapports viennent justement affirmer que le Rwanda, au travers de l'AFC et de ces troupes armées, je veux dire déployées sur les territoires congolais, a un seul objectif, c'est de pouvoir déchirer l'intégrité de notre territoire.
Oui, mais ça c'est...
Je suis triste, je le disais, puisque Vous l'avez dit, vous avez lu le rapport publié par le groupe d'experts des Nations Unies. C'est curieux que c'est lui qui a dirigé notre pays pendant 18 ans qui se met en avant-plan pour déstabiliser le pays qui lui a tout donné. C'est quand même triste. C'est triste, je le disais, pour notre peuple qui a, je ne dirais pas de manière naïve, accordé du crédit à M. Kabila, l'ancien président. Mais je pense que ce sont des faits qui permettent au peuple congolais d'accompagner davantage ou de prendre conscience que nous avons le devoir d'accompagner ou de soutenir les institutions en place. Vous vous souviendrez que lorsque le président de la République a dit que l'AFC c'était l'ancien président Kabila, c'est tout le monde qui ne croyait pas. Et aujourd'hui, les faits en témoignent sans équivoque. Je suis un jeune Congolais, mais c'est que je vois la réalité que présente les choses actuellement, je dis que nous avons le devoir, nous jeunes, de pouvoir prendre conscience et de ne pas suivre ceux qui disent aimer ce pays, alors que ce sont les vrais ennemis de ce pays.
Alors, Joseph Ngoï, le débat continue.
Nous faisons la honte de notre pays. Pourquoi? Parce que, hier, les gens qui ont dirigé ce pays, hier, les gens qui ont tout reçu le privilège du fait d'assumer les hautes fonctions dans ce pays, sont ceux qui se rebellent contre ce pays.
Joseph Ngoï, est-ce que vous nous
et
entendez?
Malheureusement,
Joseph Ngoï, permettez.
Au profit de notre État, au profit.
S'il vous plaît, permettez que cette émission soit un échange plutôt qu'un monologue. Mais Joseph Ngoï, vous êtes aussi député en activité, élu en République démocratique du Congo. Tous les regrets que vous exprimez, je crois que le régime le dit depuis un certain nombre de temps. Est-ce que maintenant que un certain nombre de choses que le régime disait et qui étaient en discussion est porté par le groupe d'experts de l'ONU, pour vous, c'est la confirmation que tout ce que vous disiez jusqu'ici, et puis si cela est la confirmation, est-ce que vous n'êtes pas aussi triste un peu parce que au lieu que l'avancée...
J'ai du mal à saisir votre préoccupation, votre question. Je vois mal du mal à saisir.
Est-ce que vous nous entendez d'abord?
Allez-y, je vous écoute, mais il y a un problème de connexion, il y a des interruptions.
Est-ce que votre tristesse, vous l'avez dit plusieurs fois, vous êtes triste, est-ce que votre tristesse, ce n'est pas aussi du fait que, au lieu que l'avancée et l'expansion du M23 se limitent et s'arrêtent, elle est plutôt en train d'évoluer avec une ampleur assez importante?
Je ne vous ai pas bien saisi. C'est difficile pour moi de répondre.
Merci. On reviendra à vous tout à l'heure, Joseph Ngoï, le temps de redistribuer la parole. Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Votre réaction au même rapport du groupe des experts de l'ONU sur la RDC?
Merci pour cette opportunité que vous nous accordez. En fait, ce qu'il faut reconnaître à ce rapport, c'est qu'il est venu quand même décrire la situation humanitaire, sécuritaire, qui s'est aggravée par le fait de cette crise dans les provinces, dans les parties orientales de notre pays. Parce qu'il me semble qu'en lisant ce rapport, lorsque vous voyez la période qu'il couvre, une partie de la résolution 2873, et que c'est de là qu'ils ont reçu mandat d'enquêter sur la situation humanitaire, socio-économique et politique de notre pays. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que tout en reconnaissant la responsabilité des belligérants dans ce rapport-là, dans la commission des actes graves, des infractions du droit international, des crimes graves, des crimes contre l'humanité, où le rapport se chargeait les belligérants dans cette affaire-là, même si le rapport, évidemment, y charge davantage par rapport aux statistiques élaborées, il reconnaît plus d'actes à la rébellion M23, mais il incrimine en même temps la partie gouvernementale, parce que ce sont là les belligérants. Il incrimine en même temps les groupes armés. Mais là où nous regrettons, c'est l'insinuation. J'ai l'impression que même un député en fonction lui-même veut rester sous l'insinuation ou le rapport à ce point, je crois, la page 15, à ce point, 57, 58, 56. Vous voyez des insinuations tendancieuses où on voudrait bien, on ne sait pas poussé par quoi, les experts viennent finalement intercaler ou ajouter le nom de l'ancien président avec un sous-titre sous, comment ils ont intitulé, les liens avec l'ancien président de la République. C'est malheureux de toutes les façons.
Ferdinand Cambéré, ce que, s'il vous plaît, ce qu'on aimerait, avant d'évoluer dans ce débat, connaître, c'est est-ce que vous reconnaissez ce rapport en totalité, en partie, ou pas du tout?
Je vous ai dit que pour l'essentiel, à ce que ce rapport a relevé une crise profonde du fait d'une guerre où les deux belligérants ne manifestent pas la volonté de mettre fin à la guerre, malgré les décisions ou les résolutions qu'ils ont prises entre eux, notamment les cessez-le-feu. Mais les belligérants sont dans autre chose. Mais maintenant, là où nous regrettons, c'est là où on veut plus ou moins rapprocher l'ancien président de la République, alors qu'il s'est présenté en sage, en conseiller. Tout le monde connaît bien son discours du 23 mai 2025. Tout le monde le connaît, où il appelait à la fin des hostilités, à la cessation des hostilités, donc le cessez-le-feu, à la cessation de la tyrannie, au retrait des armées étrangères dans notre pays. Et vous le savez que la résolution qui est comme le fondement même de ce rapport-là, la résolution 2877, est allée dans le même sens que le discours de l'ancien président de la République. Mais vous voyez là, au lieu de s'arrêter à ceux-là qui sont responsables des actes, ils veulent faire des insinuations dangereuses, comme si l'ancien président pouvait être concerné à quoi que ce soit dans cette histoire, dans ce qui s'est passé.
Ferdinand Cambéré, permettez aussi que ce soit un échange. Vous reconnaissez la crédibilité de ce rapport. Ce rapport plutôt marque et cite les nombreux acteurs, la part du M23, la part du Rwanda et même la part de la République démocratique du Congo, en indiquant que la RDC n'aurait pas rempli son engagement de neutraliser totalement les FDLR. Pourquoi donneriez-vous confiance à tous ces aspects et discuteriez-vous la partie qui concerne l'implication de votre leader politique Joseph Kabila mentionné dans ce rapport?
Donald, ce que vous devez savoir, les faits qui sont évidents et les faits avérés, comme le fait qu'ils ont signé à partir de Luanda qu'ils allaient neutraliser les FDLR, et qu'ils sont allés jusqu'à Doha, ils sont allés jusqu'à Washington. Et les deux parties se sont engagées pour un certain nombre d'engagements, notamment la neutralisation des FDLR d'un côté pour ce qui est du gouvernement, la neutralisation des groupes armés, et aussi, malheureusement, ils ont signé en conditionnant le retrait de l'armée des troupes rwandaises. Donc nous avons toujours ajouté aussi les troupes ougandaises invitées par eux. Partout où il y a toutes ces troupes, il y a la crise. Et c'est à cela que Danton Saada, l'ancien président, avait appelé dans son discours qui est écrit, du reste, et que ses députés aveugles ne voient toujours pas, en appelant à ce qu'il y ait cessation des hostilités, qu'il y ait retrait des armées étrangères, qu'il y ait un dialogue.
Alors, que gagnerait.
La tour d'oreille.
Que gagnerait Ferdinand Kambere, que gagnerait le groupe d'experts de l'ONU à mentionner. Avec les termes utilisés dans ce rapport, l'ancien président Joseph Kabila, s'il n'était concerné en rien, que gagne ce groupe d'experts?
En tout cas, ils n'ont été capables de même. Tu peux lire les points 57, les points 56, les points 59, les points 60. Ils n'ont été capables de prouver aucun des faits qui soient infractionnels par rapport au droit international à ce qui concerne l'ancien président. Nulle part où des faits prouvés ont été apportés, comme il le souligne d'ailleurs, que la méthodologie était d'apporter de preuves aux faits avancés. Mais pour l'ancien président de la République, vous lisez ces points-là, vous ne trouvez nulle part où ils ont avancé un seul fait prouvé et qui soit lié à des crimes, à des séfilms, quoi. C'est toujours des insinuations tendancieuses où on vous dit il a fréquenté la zone sous contrôle d'IM23. Mais cette zone est contrôlée et gouvernée par cette rébellion qui est reconnue par ce gouvernement. Le gouvernement qui est tout le temps en négociation avec eux. Et ça n'a même pas empêché le gouvernement à signer l'accord avec le Rwanda à Washington. Quel est le rôle qu'on veut faire jouer l'ancien président dans ça? C'est cette insinuation dangereuse où on voit une certaine, on soupçonne une certaine, c'est pas moi quoi, où la plume de ces experts-là aurait amené à l'autre. Ils sont censés avoir la maîtrise même du droit international. Mais ce n'est pas le fait d'habiter dans une zone sous contrôle de rebelles qu'on doit être lié au fait qu'on reproche aux rebelles.
Merci Ferdinand Kambere, nous revenons avec vous dans ce débat. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur de la structure baromètre sécuritaire du Kivu. À votre tour, votre réaction de ce énième rapport de ce groupe de l'ONU sur la RDC. Henri Pacifique Mayala, vous êtes là?
Oui, je vous suis. Est-ce que vous m'entendez?
Quelle est votre réaction, Henri Pacifique Mayala, sur ce rapport, ce nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC qui indique, entre autres, que la rébellion grossirait ses moyens logistiques pour continuer les affrontements, aurait des velléités d'emprise territoriale avec possibilité de créer une république qui s'appellerait République fédérale du Congo, et la complicité entre le M23 et le Rwanda ne serait pas encore au niveau de s'arrêter, entre autres sur ces éléments. Comment réagirez-vous au sujet de ce rapport?
Alors, je pense que le rapport a parlé de tous, dans le sens que depuis l'occupation principalement des grandes villes, Bukavu et Goma, la rébellion s'est évertuée et une administration parallèle qui continue à générer des fonds et qui aussi en aussi notre capacité à créer une agence qui créerait ou nourrirait cette ambition à se voir réclamer demain une entité autonome ou pays fédéral comme cela semble se dessiner. Sinon, je pense que
avec le gouvernement central,
Henri Pacifique Mayala, la communication avec vous est très mauvaise. Est-ce que vous nous entendez? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous mettre à l'extérieur, pas dans un bâtiment ou à côté d'une fenêtre ouverte? Ça faciliterait un peu plus les choses. Et si vous avez mis l'option main libre, prière, remettre l'option normale de conversation, ça pourrait améliorer la communication. Nous revenons à vous, Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Tout à l'heure, votre co-débatteur député disait être triste de ce qu'il a lu du rapport. Est-ce que vous, quand vous lisez, au-delà des commentaires que vous avez déjà faits, quand vous voyez, par exemple, le groupe M23 avancer, se renforcer, avoir des prétentions de territoire et d'officialisation d'une république, que le Rwanda, qui avait toujours nié son rapprochement avec ce groupe ou son intervention, est cité comme toujours continuant à soutenir ce mouvement, que, par exemple, met aussi l'accent sur le fait que il y aurait des renforcements ou des connexions particulières avec l'ancien président de la RDC, même si vous le rejetez. Est-ce que tout cela vous attriste un peu aussi?
Non, ça veut dire que ce que j'ai dit là, c'est simplement cet aspect tendanciel qu'ils ont ajouté dans un rapport. Je ne sais pas pourquoi c'est venu faire dans ces rapports qui auraient dû être plus renforcés s'ils établissaient plus de responsabilités, si ceux qui sont en train de commettre des crimes graves, des crimes de guerre sur terrain. Pourquoi ils ont eu intérêt à ajouter un homme, un Congolais, un patriote qui se plaint du reste, un acteur politique qui a sa famille politique, il a le PPRD, il a le FCC, il a le mouvement Sauvons la RDC, et ses revendications politiques sont toujours publiques. Et ça va toujours dans le sens contraire de ce qu'ils sont en train d'affirmer. Et comme experts des Nations Unies, ils auraient dû avoir plutôt cette histoire où on doit encourager les anciens présidents, par exemple, lorsqu'ils ont accepté de permettre à ce qu'il y ait alternance pacifique dans un pays. Mais le désastre, c'est quand? C'est lorsque celui qui a hérité le pouvoir, lorsqu'il le prend, il se comporte en tyran. Ce député qui se dit être triste, il est triste de quoi? Parce que le M23 est son émanation. C'est eux qui ont rappelé le M23 ici. Il s'est de Bunagana jusqu'à prendre toutes les grandes villes, notamment Goma et Bukavu. C'est du fait du pouvoir. Le fait de s'allier au FCR, au Ouazalendou et les mettre dans une sorte de d'ambiguïté pour cacher les alliances avec ces groupes armés. Tout à fait, ce sont des groupes armés qui ont toujours été condamnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce qu'ils ne permettaient pas à ce que la situation soit celle que nous vivons aujourd'hui? C'est une hypocrisie malheureuse. Lorsque les gens du régime, ils sont là pour dire c'est triste pour un ancien président, mais c'est qu'ils sont là. Est-ce que tu sais qu'il a hérité ce pays, il y avait la guerre? Est-ce qu'il y avait cette crise-là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Même des résolutions qu'il a signées pour la désescalade. Et si il pensait que l'ancien président pouvait être concerné de quoi que ce soit dans cette histoire, pourquoi ils n'ont jamais été capables de l'inviter pour qu'il parle? Partout où ils vont, ils rencontrent plutôt le Rwanda, ils rencontrent l'Ouganda, ils rencontrent tout le monde, sauf nous, le diable, le sorcier a tué.
Ferdinand Kambere, le débat continue, le temps de donner la parole à vos autres co-débatteurs qui n'ont pas eu la possibilité à cause des moyens de communication. Heureusement, Henri Pacifique Maya, la coordonnateur de la structure baromètre sécuritaire du Kivu, nous rejoint dans ce studio en espérant que ça favorise beaucoup plus l'évolution du débat. Henri Pacifique Maya, vous étiez en train de réagir tout à l'heure sur ce rapport de l'ONU. On n'a presque pas entendu grand-chose de votre intervention. Est-ce que très brièvement, vous pouvez nous donner votre réaction de ce document, de ce contenu?
Merci encore, mais donner le contenu c'est un très long rapport, je dois avouer.
Non, votre réaction, on ne vous demande pas de résumer le rapport, votre réaction.
Parfait.
Après donc, lecture.
S'il faut se focaliser sur la thématique de
l'émission. Je pense que le rapport revient sur des faits dont la majorité est connue de tout le monde. Le M23 qui aujourd'hui occupe des principales villes de l'Est de la République démocratique du Congo a dès ses premières semaines instauré une administration parallèle qui collecte les taxes, qui se solidifie dans une certaine mesure. Je le disais aussi, la rébellion a sécurisé sa place autour de la table directement face au gouvernement de la République. Et là encore, il faut revenir sur comment est-ce que le gouvernement de la République se retrouve à discuter avec le M23, ce qui pourrait peut-être aussi nous aider à faire la transition avec la mention du président, de l'ancien président Kabila dans ce...
Est-ce que pour vous, ce rapport est crédible, déjà?
La méthodologie est établie, le groupe d'experts est opérationnel, je pense, depuis 2004, et la plupart du travail qui a été accompli par ces chercheurs, la plupart d'eux avec pas de lien direct avec le Congo, ont été crédibles. Et au-delà de ce qui est présenté dans les faits immédiats, je pense que leur procédure inclut aussi la possibilité des personnes incriminées ou des personnes citées, mentionnées, pour certains faits que ces personnes rejetteraient.
Alors, Ferdinand Kambere,
une possibilité de revenir pour un droit de réponse et apporter des corrections le cas échéant. Par contre, un élément que je voulais...
Vous gardez toujours la parole, vous allez continuer de nous éclairer. Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, que vous connaissez, s'attriste et si j'ai bien compris sa réaction, il semble rejeter les indications, les éléments mentionnant un rapprochement ou une participation quelconque de l'ancien président Joseph Kabila, comme indiqué dans ce rapport. Que répondriez-vous à sa réaction?
Ben, je serais partiellement tenté de dire que je suis d'accord avec lui dans une certaine mesure où, pour moi, sur un fond d'évidence matérielle, il est quand même encore difficile de dire à 100% que la filiation du président Kabila avec le M23 est matériel ou avéré. Parce que oui, être présent à Goma ne veut nécessairement pas dire être directement affilié avec le M23. C'est vrai que d'autre part, le président Kabila n'est pas un citoyen lambda, ce qui peut être problématique dans une certaine mesure. Par contre, pour revenir sur le fait de ne pas perdre un élément de l'équation qui est assez important. Sur qui ramène cet élément de doute dans cette équation, c'est le président Kagame, qui ramène ou qui déplace le débat de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, cherchant à l'étoffer comme une affaire entre Congolais. C'est encore une fois le président Kagame. Et là, s'il faut jouer sur les deux tableaux, c'est un scénario qui lui profite à lui, dans le sens où...
Vous continuez toujours de garder la barbe, mais comment...
Les responsabilités...
Comment
j'ai fini mon idée.
Non, les responsabilités c'est un débat, sont... je vous permets d'y aller vite, parce que, comme vous rendez compte, nous sommes nombreux, et beaucoup de notre temps a été consommé par des aléas techniques. Vous gardez la parole et vous continuez dans votre intervention. Comment, parce que c'est le public qui nous écoute et qui se pose ces mêmes questions, comment arriver, selon vous, à faire confiance, à donner du crédit à un rapport qui dit, par exemple, que les M23 se renforcent, ils ont l'intention de constituer une république à part la République démocratique du Congo, qu'ils ont le soutien du Rwanda, et que ces choses-là semblent être acceptées? Et comment comprendre que lorsqu'on mentionne un autre élément, notamment la présence ou l'implication ou le rapprochement de l'ancien président dans cet activisme, il se présente ou il serait né un doute comme vous êtes en train de le mentionner? Comment comprendre que ce rapport soit à la fois crédible et pourrait ne pas être crédible sur cet aspect?
Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des aspects sous lesquels le rapport serait crédible et qu'il y ait des aspects sous lesquels le rapport ne serait pas crédible. Je dis que le rapport était des faits dont la majorité sont connus de tout le monde. Le M23, ça fait plus de deux ans maintenant, c'est depuis avril 2024 qu'il contrôle Roubaix. Roubaix, c'est autour de 300 000 dollars le mois en termes d'exploitation. C'est beaucoup de revenus pour une structure que l'on a vue aujourd'hui n'est pas directement agir comme un groupe armé ou une résurgence des faits, mais de plus en plus il se structure. Il y a aujourd'hui une administration qui fait payer les taxes, qui, dans une certaine façon, ils essayent en tout cas de refléter l'autorité de l'État. Et vous vous souviendrez que ça, c'est parmi les choses qui divisent selon l'interprétation de Kinshasa ou selon l'interprétation de l'autre côté. Cela nous ramène encore maintenant sur le point de à qui profite cette incompréhension, même au niveau de l'interprétation des faits. Je l'ai dit, le président Kabila n'est pas un citoyen lambda. Sa présence dans une zone sous occupation rebelle est questionnable. Mais de ma posture en tant que chercheur, je me dis, il n'est pas encore si rassuré de prouver par 1 plus 1 égale 2 que le président Kabila est impliqué dans la rébellion du M23. Mais seulement, je veux ramener à la réflexion l'élément sur lequel, à Luanda, lorsqu'il faut trouver une piste de sortie à cette crise le 15 décembre 2024, et la personne qui ne vient pas, c'est Kagame. Et c'est Kagame qui, dans une certaine façon, oblige à ce que le M23 se retrouve face à face au gouvernement congolais. Et là encore, si on va un peu plus loin, c'est l'échec matériel du multilatéralisme, parce que pour moi, c'est peu concevable d'avoir un État souverain obligé d'aller négocier avec une rébellion, et n'est pas demandé la même chose de l'autre côté, parce que, souvenez-vous, les FDLR ont aussi demandé à ce qu'il y ait une discussion dans un peu le cadre Doha entre le gouvernement rwandais et eux, ce qui n'a pas été le cas. Et après, lorsque le président Kagame, c'est ça aussi que je suis en train de dire, c'est très important, lorsqu'il est acculé par la pression diplomatique internationale et qu'il y a une brèche d'opportunité à pouvoir déplacer le débat de la condamnation du Rwanda vers la responsabilisation à 100% congolaise de cette crise, il l'a saisi et on est en train de se morfondre là-dedans. Ma lecture du rapport d'experts, je ne trouve pas un passage qui confirme que le président Kabila est de facto dans la rébellion du M23, en tout cas jusqu'à preuve du contraire.
Le rapport ne le dit pas non plus, le rapport dit qu'il y aurait des rapprochements.
Tout à fait.
Donc
tout à fait.
C'est de ça qu'on parle, hein. On parle de ces rapprochements,
Soit là sans pour autant perdre de vue certains éléments.
Tout à fait, vous l'avez mentionné.
Au moment où les Congolais doivent être unis derrière une question d'agression étrangère, et bien sûr, d'autres questions de gouvernance interne, on va dans un débat qui profite beaucoup plus à ce même agresseur.
Merci à vous, Henri Pacifique Mayala. Nous allons essayer d'ouvrir notre standard et de laisser parler aussi la population directement. Joseph Nkoy, qui nous a retrouvés dans ce studio, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons eu beaucoup de mal à avoir une communication avec vous, malheureusement. Nous allons essayer de récupérer rapidement le temps de notre émission, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, malheureusement. Joseph Nkoy, député national cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Nous allons vous laisser écouter ce commentaire de notre auditeur Pierre, qui nous appelle de Calémie. Ensuite, vous allez prendre la parole, notamment pour réagir à sa réaction, mais aussi placer un mot sur l'ensemble des choses pour lesquelles nous n'avons pas eu la possibilité de vous écouter.
Ingénieur Pierre Kiboué, depuis la ville de Calémie, province de Tanganyika. Les rapports de l'ONU n'est pas à prendre avec légèreté, car le risque de la balkanisation est réel et plus grand qu'avant. De la manière dont l'ACM23 procède, démontre clairement un risque de la balkanisation. Elle ne fait pas seulement la guerre, elle administre déjà les impôts, tribunaux, police, etc. Quand un groupe rebelle gère le quotidien pendant un an et plus, la population s'habitue et l'État central devient abstrait. Donc le risque est grand parce que, pour la première fois depuis 1997, un groupe rebelle a à la fois un terrain, l'argent, l'administration et un pareil étatique. Si le gouvernement de Kinshasa reste dans sa logique de ne plus organiser un dialogue inclusif national tant souhaité par un grand nombre de gens, le gel devient permanent. Merci.
Votre réaction?
Bien, merci beaucoup. Je suis, je présente d'abord mes excuses pour ce retard. J'aurais bien voulu avoir tous les temps pour donner mes éléments des commentaires ou d'analyse sur les rapports publiés par les experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est du pays.
Allez-y directement parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement.
Oui, je vais essayer un peu de dire un mot par rapport à l'intervention de mon co-débatteur, le secrétaire permanent, je pense...
Ferdinand
Cambéré. Je pense que l'attitude des responsables voudrait que Maître Ferdinand Cambéré demande pardon au peuple congolais parce que hier, lorsqu'on disait que leur chef de file était à connivence avec le M23, ou à la limite, c'est lui qui est le chef de file, on disait le président de la République fait un procès d'intention. Aujourd'hui, la réalité factuelle est telle que l'ancien président Joseph Kabila est avec l'EAFC.
Le rapport ne le dit
pourquoi?
Pas, hein, sauf si vous avez les passages.
Je vais vous dire une chose. Vous savez, en diplomatie, il y a, je veux dire, un type de langage qui est donné. Et c'est aux initiés de pouvoir les décoder.
Le document, selon ce que nous avons eu comme information, dit des liens grandissants entre l'AFC M23 et l'ancien président Joseph Kabila.
Et c'est quand on vous dit qu'il y a de liens grandissants.
Ça ne veut pas dire que c'est... En fait, ça, le français ne veut pas dire...
C'est ça justement, voilà. C'est-à-dire ceci. Je vous ai dit que c'est un rapport rédigé par les experts des Nations Unies. Lorsque les experts des Nations Unies vous disent qu'il y a de liens grandissants, c'est justement pour éviter d'aller dans l'hyperbole. En fait, on adopte un langage plus ou moins atténuant pour que les initiés puissent décoder. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre sur quelle base un ancien chef de l'État qui prend la... ou qui se trouve allègrement sur les territoires occupés par l'ennemi et qui est protégé ou dont la garde est assurée par les troupes rwandaises. Faudrait pas être, je veux dire, un ange ou être savant pour comprendre que sur les plans diplomatiques, sur les plans politiques, l'ancien président de ce pays est avec le AFC.
Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, Joseph Nkoy, est-ce que ça signifie pas aussi que la République n'a pas su, n'a pas pu contenir ces avancées et cette prise d'ampleur et que c'est un peu comme des limites que l'État n'a pas su contenir?
Vous savez, je vais vous faire réfléchir, vous donner un élément de souvenir. Lorsque l'ancien président Kabila fait son discours, je pense que c'était son dernier discours du haut de la tribune des Nations Unies, il dit « Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt ». Cela voudrait dire que pour lui, la République démocratique du Congo était son bien, était sa maison, qu'il pouvait diriger comme il veut, et pour lui, bon, je cède d'abord le pouvoir et je veux revenir quand je veux. Quand il se retrouve devant les impératifs constitutionnels, c'est-à-dire il n'a plus le droit de pouvoir revenir, ayant à l'esprit le fait que bon, c'est moi qui suis resté, moi qui ai dirigé le pays pendant 18 ans, je peux toujours revenir, il prend maintenant une autre posture, c'est-à-dire dans le seul but de tenter revenir au pouvoir, il arme une rébellion. Ça, on n'a pas besoin d'être magicien pour comprendre cela. Et lorsque les premiers éléments des faits ont été mis à notre portée et que l'on a commencé à dire que c'est lui qui a pris la décision de pouvoir déstabiliser davantage notre pays, c'est l'ancien président. Les gens n'ont pas cru.
Joseph, vous gardez la parole. Après, vous allez chuter comme vous souhaitez le faire tout à l'heure. Mais on ne va pas se focaliser que sur cet aspect de la mention du nom de l'ancien président. Mais lorsque ce rapport aussi dit quand même quelque part que la RDC n'a pas respecté son engagement de neutraliser les FDLR, lesquels ont poursuivi leurs opérations aux côtés des FRDC. Pourquoi est-ce que la RDC ne règle pas une bonne fois pour toutes ce prétexte rwandais aussi?
Je pense que nous avions suivi ou nous suivons régulièrement la posture et la position du gouvernement de la République. Aujourd'hui, une grande partie de nos deux provinces est dirigée par la rébellion. Est-ce que vous pouvez nous dire combien des éléments de FDLR ont été attrapés par les troupes rwandaises qui sont sur les territoires congolais? Parce que, disent-ils, ils sont en train d'opérer, les éléments de FDLR opèrent aux côtés du FRDC. Combien ont été tués jusque-là? Parce que je me dis, si on peut ne fût-ce qu'avoir les éléments capturés, les éléments tués des FDLR, on aurait compris. En fait, c'était un alibi du Rwanda.
Mais, vous continuez d'insister que ce rapport est crédible, malgré les bémols que vous venez de souligner.
Effectivement, je ne remets pas en cause, je ne renie pas la crédibilité du rapport. Mais il faut dire que c'est un rapport qui s'établit dans un contexte diplomatique très complexe et que toutes les mentions qui sont dans ce rapport-là ont un langage, un sens diplomatique qui revient justement aux initiés des pouvoirs
décodés. Joseph Nkoyo, on revient à vous tout à l'heure. Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo FCC en sigle. Nous allons aussi recevoir pour vous les réactions de cet auditeur de Mahagi et vous allez prendre la parole aussi.
Emmanuel Ali Pendja, depuis Mahagi, à province de l'Ituri. Ce nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies renferme pour moi toutes les phases cachées de cette agression qui dure depuis plusieurs années, en installant une administration parallèle et en consolidant son administration. Le mouvement FCM23 tente peu à peu à réussir sa mission qui n'est rien d'autre que balkaniser la RDC. Pour moi, ce rapport établit une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui en confirmant les liens pouvant exister entre ces mouvements rebelles et l'ancien président de la République, car dans leurs différentes sorties médiatiques, tous tendent à confirmer poursuivre les mêmes objectifs, la balkanisation ou la soudanisation, comme l'a dernièrement affirmé le président honoraire.
Ferdinand Kambere.
Bon, je dois saluer l'intervention de cet auditeur de Radio Okapi. Donc, je crois que vous avez compris avec l'honorable Joseph qu'en ce qui concerne tout ce qu'on pouvait accuser, on pouvait appeler comme accusation, mais qui ne sont pas des accusations du tout, mais qui sont des insinuations tendancieuses, des rumeurs. Donc les experts, à ce qui concerne l'ancien président, n'ont utilisé que des rumeurs. La fréquence de l'ancien président dans la zone sous contrôle, ce n'est pas une infraction. Et ils ont encore dit quoi? Ils ont dit une sorte de remaniement, et puis on trouverait une place. Mais à la fin, vous allez voir que dans les récits, ils disent encore que c'est un mouvement qui est dirigé militairement par le général Makenga et politiquement par Benin. Donc, pour vous dire que c'est des rumeurs, malheureusement, qui sont mises là, en violation de la méthodologie qui se sont donnée, qu'ils n'allaient pas avancer des faits sans en apporter de preuves. Nous sommes en droit pénal. Je retiens simplement que les députés, ils nous disent non, c'est écrit à langage diplomatique, à langage codé, Donc, il nous donne totalement raison. Ici, on est en droit pénal. Lorsqu'on parle de matière d'enquête, les faits doivent être des faits probants. On doit être capable de le prouver et pas des insinuations et pas au conditionnel. Je retiens cela. Et je regrette que lui, il croit que ce rapport est contre l'ancien président. Au lieu d'abord, eux, de se défendre de ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont comme incrimination dans ce rapport-là. Notamment, quand ils ont commencé à signer les Conops pour neutraliser les FDNR. C'est depuis Luanda, non? Ils sont allés à Doha, ils ont reconnu le tout. Et que donc le prétexte pour le Rwanda, qui est accepté par la communauté internationale, c'est que le gouvernement n'a pas la volonté de neutraliser les groupes armés, n'a pas la volonté de mettre... à place un climat pour que, et comme partie prenante, s'entendent. Ils vont à Doha pour ne pas s'entendre, ils vont à Washington pour ne pas s'entendre, ils essaient à Montreux pour ne pas s'entendre, mais entre-temps, c'est la population qui continue.
Ferdinand Kambere,
j'ai vu encore là-dedans.
Ferdinand Kambere, est-ce que, nous sommes en train de terminer malheureusement notre émission, est-ce que ce rapport a apporter une aide? Est-ce que ce rapport est une aide de manière générale pour la résolution des questions posées et à l'est de la RDC et dévoilées par ce rapport?
Non, ça veut dire que ce rapport, on a l'impression qu'à vouloir ajouter le nom de l'ancien président, qui dirait ça a toujours dit plus publiquement ce qu'il pense par rapport à cette guerre-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la souffrance de la population. Mais vous voyez des experts des Nations Unies venir avec des rumeurs, des suppositions. Ils n'aident pas. Alors ici, par exemple, les révélations, même dans les rapports où le gouvernement est allié avec ces groupes armés, les députés des révélations sont là. C'est eux qui entretiennent. Ils encadrent avec le fonds du trésor ce groupe armé. Vous pensez que ça, ce n'est pas pour permettre à ce qu'il y ait la soudanisation comme l'intervenant de tout à l'heure venait de le dire, et ça a été dénoncé par l'ancien président. D'entretenir une crise, et même ce qu'il fait là, avec son projet de changement de constitution. Alors qu'aujourd'hui, il aurait dû avoir comme priorité mettre fin à cette crise, mettre fin à cette guerre, mettre fin à la tyrannie.
Merci, merci Ferdinand Kambere. Nous allons donner la parole à Henri Pacifique Mayala pour écouter et réagir à ce commentaire de Lubumbashi.
C'est Kaïté Kalunga Prosper, j'appelle depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. La RDC, depuis qu'elle a eu cette appellation, c'est la première fois de voir le gens au pouvoir qui privilégie l'intérêt personnel, au lieu de privilégier l'intérêt commun. La réaction de cette opposition armée de faire une république fédérale provient du changement ou de modification de la Constitution, qui est un projet qui prive à certains politiques ou politiciens d'être loin de tous les avantages congolais. Sinon, ce mouvement n'a jamais eu de vouloir de faire cela, parce que ceux qui sont à la tête de ce mouvement sont des Congolais. Et on s'est pitié de diviser la RDC. Mais face au comportement des gouvernants au pouvoir, risquer aux responsables de l'ARC-M23 d'avoir les intentions de cette partie du territoire, une république fédérale sur leur avenir qui est aujourd'hui bâclée avec des condamnations et de multiples accusations.
Henri Pacifique Mayala.
Ouais, je pense être d'accord avec notre compatriote Prosper. Il nous faudrait parvenir à construire un pays dans lequel les frustrations politiques et les désaccords sociaux ne devraient pas se résoudre en recourant aux armes. Il y a nécessité, je pense, dans notre pays à pouvoir repenser l'élargissement de l'espace civique. Cela ne commence pas avec le régime en place. Et je pense que lorsque vous regardez l'ossature ou la cartographie des acteurs qui se retrouvent aujourd'hui à l'est du pays, il y a certains qui n'ont rien à voir avec les réclamations qui, au départ, ont fait objet du cahier des charges du M23. C'est des personnes qui se sont brouillées pour certains intérêts personnels ou d'ordre politique ici à Kinshasa et le lendemain ils se retrouvent de l'autre côté à Goma. Ça demande de l'effort, ce n'est pas impossible, laborieux peut-être au début, mais c'est un idéal que nous en tant que peuple pouvons se fixer comme objectif et l'atteindre. Le fait qu'aujourd'hui les personnes qui se sentent frustrées recourent aux armes et que cela se perpétue. C'est un peu comme la violence et le langage que le gouvernement entend le mieux. On est en train de voir dans le Grand Nord avec la CRP de Thomas Lubanga où il dénigre désormais les initiatives de consolidation de la paix ou les initiatives de la paix à la base parce que ils ont eu une opportunité à se rencontrer avec le gouvernement à Kampala pour discuter, éventuellement avoir un schéma ou un processus similaire à celui du M23. On a entendu dire qu'il y a eu des issues, il y a eu des opportunités de négociation ou de dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais avant que les choses ne s'empirent, mais malheureusement on n'a pas su saisir cette opportunité, je pense que...
Pacifique Maya, là on est en train de terminer notre émission, c'est pas aujourd'hui l'émission consacrée à des pistes de solutions pour régler la situation à l'Est de manière générale, on en aura encore des occasions comme celle-là. Ce qu'on aimerait savoir dans la thématique d'aujourd'hui, c'est comment par exemple ce rapport des experts de Nations Unies peuvent être bénéfiques dans l'avancée vers justement les résolutions possibles de la situation à l'Est.
Et dans ces recommandations, je pense que le rapport est trop riche et assez fourni. Quand je vois que le rapport qui est normalement soumis au Conseil de sécurité recommande au Conseil que tous les pays membres, en cas de transfert de matériel militaire ou en cas d'initiation de coopération militaire avec le Rwanda, que cela soit signifié au niveau du Conseil de sécurité, que le Conseil mette encore davantage de pression diplomatique sur le Rwanda. Je pense que là sont des recommandations que peuvent exploiter les Congolais afin de voir comment est-ce qu'on a vu. Il y a eu pas mal de victoires diplomatiques assez récemment rapportées, mais encore une fois, la problématique de comment est-ce qu'on conserve le momentum pose problème. On ne devrait pas s'éparpiller. Aujourd'hui, se focaliser sur oui ou non Kabila avec le M23, au lieu d'exploiter la panoplie de recommandations fournies dans ce rapport, je pense que serait peu...
La meilleure des choses à faire. Merci à vous, Henri Pacifique. Mayala Fedna Kambere, si vous êtes encore là, en 30 secondes,
oui, je suis là.
Voilà. Comment, selon vous, ce rapport qui est là, avec tous les bémols qu'il peut contenir, peut aider à avancer vers les recherches rapides de solutions pour
c'est
la pacification.
C'est comme je vous le disais, qui accompagne la résolution 2873 que nous soutenons, serait un outil très très important qu'il était inutile et superfétatoire de vouloir faire jouer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, alors qu'il a toujours prodigué des conseils pour qu'on mette fin à cette tyrannie, qu'on mette fin à cette guerre qui continue à faire mourir. Je vois même dans les rapports où l'EDF grossit.
Merci.
Parce qu'on la lit facilement à ces États islamiques qui auraient une région à l'Est. Aucune implication de ces EDF et les Ougandais alors que c'était des rebelles ougandais. Moi, je crois que toutes ces insinuations-là, comme vient de le dire notre prédécesseur dans cette intervention, les experts joueraient un œuvre utile en insistant surtout sur les acteurs premiers. Ceux-là qui jouent un rôle direct.
Merci à vous, Ferdinand.
Qui libère inutile, qui est en train de diluer inutilement un rapport qui aurait dû servir la résolution 2873.
Merci à vous, Ferdinand Kambere. Nous allons aussi terminer avec vous. Un mot en 30 secondes. Joseph Nkoy, député national. Comment est-ce que ce rapport de l'ONU, avec ses forces et ses faiblesses, selon, en vous écoutant, peut-il aider à trouver des solutions à la situation de l'Est de la RDC?
D'abord, vous avez compris l'incohérence dans les chefs de mon frère Ferdinand. Pourquoi? Lorsque le rapport incrimine l'ancien président de la République, il allègue qu'il s'agit des rumeurs, mais lorsque le rapport parle des obligations qui reviennent en charge de toutes les parties prenantes, là il est sincère. Vous avez donc compris qu'en fait ils sont dans leur schéma de pouvoir déstabiliser notre pays, de pouvoir jouer au jeu du Rwanda. Mais nous pensons que le moment est enfin arrivé pour que nous essayions de déstructurer tout l'appareil qui avait été mis en place pendant 18 ans pour la déstabilisation de notre région.
Mesdames et messieurs,
il ne faudrait pas faire des raccourcis ou des raccordements fraudulés entre ce qui s'est fait par les institutions de la République et la barbarie rwandaise facilitée par les gens qui y ont été servis par ce pays.
Merci à vous.
Il faudrait que le peuple congolais prenne conscience davantage, accompagne les institutions de la République pour que notre pays reste uni et dire non à l'idée de la bancalisation.
Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Cette émission se clôture ici. Merci à Alain Ngoï, Guimaté, Benjamin Moudoumbi pour leur aide éditoriale, de Namadimba Sémon à la présentation. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir.